Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Depuis quelques années, la notion d'hypersensibilité s'est imposée dans le grand public et dans les médias, alors qu'elle figure depuis longtemps dans la littérature. Songez aux œuvres de Jane Austen, des sœurs Brontë ou encore de Goethe. L'hypersensibilité, cette émotion à fleur de peau, une sensibilité aiguisée face aux lumières, aux sons, aux bruits trop vifs, une sensibilité élevée aux remarques, aux critiques, aux taquineries d'autrui. De plus en plus de personnes se disent hypersensibles, à tort ou à raison. L'hypersensibilité est-elle un concept sérieux, validé par la recherche scientifique, utilisé par la psychiatrie ou la psychologie clinique? Comment mesure-t-on ce trait de caractère? Est-il mesurable par des tests validés par la science? Pourquoi la sensibilité de certains est-elle exacerbée? Nous verrons comment mieux vivre cette sensibilité à fleur de peau. Quels sont les avantages de l'hypersensibilité dans les relations sociales, dans la créativité ou dans la connaissance de soi? Élément de réponse ce matin avec la collaboration du mensuel Cerveau et Psycho. Racontez-nous votre hypersensibilité et comment vous la vivez au quotidien au 01 45 24 7000, sans oublier de réagir sur l'appli France Inter. Elle incarne le calme des vieilles troupes, difficile à déstabiliser. Marie-Laure Sunshine, chef de service à Femme Actuelle. Beaucoup de questions pertinentes ce matin dans votre cabas.
Bonjour Ali, oui, je crois qu'on va apprendre à se méfier, vous savez, de l'effet Barnum, à faire le tri entre les vrais hypersensibles et les autres.
Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Vous remplacez Christophe André cette semaine. Quel est le menu de vos chausses vers 11h20?
Des confidences.
Ah, des confidences très personnelles.
Confidences.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Je comprends aujourd'hui pourquoi je ne peux pas voir un film vraiment violent ou très violent. Je ressens vraiment au fond de moi. L'hypersensibilité, c'est de porter attention à des détails, c'est d'être, je pense, perfectionniste aussi, du coup, de s'inquiéter beaucoup pour les autres.
Extrait de Télématin en 2019. Bonjour Nathalie Clobert.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicienne, hypnothérapeute, formatrice et vous venez de publier chez Le Duc ma Bible de l'hypersensibilité. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes neuroscientifique de formation, rédacteur en chef de l'excellent mensuel Cerveau et Psycho avec en une ce mois-ci, êtes-vous hypersensible? Alors Nathalie Clobert, une question très simple, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Un concept récent qui ne figure pas dans les manuels diagnostiques psychiatriques, hein?
Alors tout à fait, puisque vous avez raison, ce n'est pas un trouble. C'est pas un trouble, donc on va pas le trouver dans les manuels diagnostiques. C'est une caractéristique de la personnalité. On peut être plus ou moins sensible. Alors c'est vrai que jusqu'ici, on en parle plutôt comme une catégorie. En réalité, il y a beaucoup plus de continuité qu'on ne pense entre les personnes moins sensibles et plus sensibles. C'est comme un trait dimensionnel de la personnalité. Ça va être une plus grande sensibilité aux stimulations de l'environnement, qu'elles soient sensorielles ou émotionnelles, et une réponse émotionnelle correspondante à ces stimulations plus intenses.
Alors, l'hypersensible se reconnaît souvent à sa tendance à vivre des émotions intenses, à une sensibilité à fleur de peau, une sensibilité qui peut jouer des tours, quand une remarque, une taquinerie en public provoque des émotions en cascade que l'on ne contrôle pas.
Alors oui, tout à fait, c'est un trait qui n'est pas forcément confortable. Alors il a des inconvénients, mais aussi des avantages. On est dans une société qui ne valorise pas tellement la sensibilité à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'on la dépend souvent à travers ses manques, comme un défaut. Elle a d'autres visages, bien sûr, mais ça va amener à vivre des situations qui ne sont pas très confortables, notamment dans la société, liées à l'image qu'on a des émotions, de l'expression des émotions en public.
Alors l'hypersensible peut souffrir également quand il s'expose à des sons, à des bruits trop forts, à des lumière trop vive.
Oui, tout à fait. Alors, ils n'ont pas nécessairement des sens plus développés que les autres. C'est pas un super pouvoir.
C'est pas des X-Men.
Non plus, même si ça peut conférer des avantages intéressants. Mais il va y avoir une attention plus importante aux détails, aux changements, aux modifications dans l'environnement. Donc, ça peut effectivement concerner tous les éléments sensoriels. Ce sont des gens qui vont être plus affectés par des images au cinéma. Ça va être plus immersif pour eux, par les bruits ambiants, notamment la ville. Paris, c'est pas toujours facile pour les personnes très sensibles. Il va y avoir plein d'éléments comme ça qui vont être beaucoup plus inconfortables. En effet.
L'hypersensibilité, vous n'aimez pas beaucoup ce mot?
Alors oui, c'est vrai, parce que c'est la traduction française qu'on a donnée dans les ouvrages de développement personnel, mais le terme nous vient d'outre-Atlantique, et c'est « height sensitive person », c'est-à-dire personne à la sensibilité élevée, à la haute sensibilité. Et on voit bien que dans le mot anglo-saxon, il n'y a pas cette connotation un petit peu pathologique ou extrême qu'on a dans hypersensibilité en français et qui, du coup, entraîne plein d'amalgames.
Qu'est-ce que vous préférez comme terme ?
Alors moi, j'aime bien « personne à la sensibilité élevée ». Parce que ça permet d'insister sur le fait qu'on peut être plus ou moins sensible.
Sébastien Boller.
Oui, ben on voit bien que c'est plus juste. Scientifiquement, ça reflète plus la réalité. Parce qu'il n'y a pas d'un côté des gens qui seraient des hypersensibles, qui atteindraient des scores de dingue, et de l'autre, des gens non sensibles. C'est pas deux catégories. C'est ça qui est intéressant quand on fait la science de ces choses-là, c'est qu'on voit que c'est des courbes. Il y a pas de rupture, c'est-à-dire qu'il y a on a toutes les sortes de sensibilités dans la population.
C'est un continuum.
C'est comme quand vous prenez les tailles dans la population, il y a des petits, des moyens, des grands, puis il y a tous les intermédiaires. Et ben c'est pareil avec la sensibilité. Simplement, ben c'est un terme qui est un peu moins un choc. Personne à haute sensibilité, ça claque moins que hypersensible.
Nathalie Clobert.
Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que ça contribue. C'est un petit peu comme le terme surdoué en français. On aime bien les superlatifs. Surdoué, on a l'impression qu'on serait trop doué. Bon, bah, hypersensible, on serait trop sensible. Et ça tire du registre, dans le registre de la pathologie.
Docteur Schneider.
Oui, je pense que c'est une question de seuil. Une question de seuil aussi personnel. Ce qu'on ressent soi-même. On peut parfois supporter des tas de choses. Et puis, quelquefois, d'autres choses qui ont l'air plus anodines à d'autres personnes sont des bouleversements intenses.
Écoutons la note vocale que nous a laissée Sophie sur l'appli France Inter.
Alors oui, hypersensible et fière de l'être, même si parfois c'est assez lourd à porter, besoin de beaucoup se mettre à l'écart pour digérer entre guillemets la violence de l'extérieur. Ça va jusqu'au bruit qui peut être perçu comme hyper aigu, hyper sollicitant, fatigant. Donc ma question, ça serait plutôt de savoir comment on peut se faire diagnostiquer concrètement, parce qu'on voit beaucoup de choses sur Internet et on est un peu perdu en tant qu'adulte. Et j'ai grand peur que ma fille soit vraiment comme moi. Et j'ai peur pour elle. Bonne journée à tous.
Alors, docteur Aurélia Schneider, Sophie parle de diagnostic, mais l'hypersensibilité, on l'a dit, n'est pas un trouble psychologique.
Non, non, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas inscrit dans les manuels de diagnostic DSM, comme on appelle ça. Non, c'est un état, c'est une aptitude, on peut dire aussi ça comme ça. Et moi, j'aime bien cette définition que Nathalie a donnée tout à l'heure de personne à la sensibilité élevée, c'est-à-dire que là encore, on a plus ou moins de sensibilité, de sensorialité, parce que c'est pas seulement, elle l'a décrit la personne là, c'est les sens, c'est les émotions, beaucoup de choses peuvent être touchées ou pas chez ces personnes à la sensibilité élevée.
Alors Nora nous écrit qu'elle s'est découverte hypersensible après avoir lu le livre de Fabrice Midal sur le sujet. Elle nous dit que son ex-mari lui a asséné d'aller se faire soigner. C'est une phrase un peu violente, me semble-t-il, Nathalie Clobert.
Oui, effectivement, c'est une phrase un petit peu violente. Alors, ce qui va effectivement être embêtant parfois dans les relations sociales, ça peut être dans les relations de couple, de famille en général, ça va être le décalage en fait de vécu. L'idée que finalement, on va percevoir certaines choses qui paraissent anodines aux autres, comme plus saillante, comme peut-être nous impactant davantage en termes de confort. Alors tout le monde ne va pas réagir de façon explosive. Vous avez des personnes très très sensibles qui camouflent, qui contrôlent. Ça se voit pas forcément. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais ça peut créer vraiment des malentendus avec parfois l'idée qu'on a l'impression que l'autre ne perçoit pas la réalité qui est perçue par la personne très sensible. Alors elle existe, bien sûr. Après, comme on l'a bien souligné, l'idée c'est que certes, ça n'existe pas dans les manuels et dans les troubles. Par contre, il va y avoir certains symptômes de troubles qui, des fois, sont confondus avec la sensibilité élevée. Et ça en fait parfois un fourre-tout.
Et oui, avant de parler d'hypersensibilité, il faut déterminer si cela ne cache pas une véritable pathologie. Un trouble anxieux, un trouble de la personnalité borderline, une dépression, un trouble de l'humeur, Aurélie Schneider.
Oui, il va falloir éliminer les diagnostics psychiatriques. C'est très important parce que quand on est anxieux, quand on est déprimé, on a une exacerbation de tas d'émotions, des émotions tristes, des émotions de peur. Et il faut effectivement diagnostiquer ces patients dans une catégorie peut-être de pathologie ou pas.
Alors il y a peut-être quelque chose qui peut nous aider dans un premier temps, en tout cas de façon, quand on n'a pas un regard expert, c'est déjà la tonalité émotionnelle. C'est-à-dire que dans la sensibilité élevée, la tonalité émotionnelle, enfin la sensibilité aux émotions, elle est sur toutes les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, pas uniquement sur les émotions négatives. Et on va retrouver par exemple dans la dépression, qui est une des confusions les plus fréquentes. Là, c'est différent. On va avoir une sensibilité essentiellement aux émotions négatives qui va être plus présente, un émoussement au contraire des émotions positives et des sensations de plaisir. Et cette apparition-là, elle est récente, liée à la présence d'une dépression. Mmh. Alors que dans l'hypersensibilité proprement dite, c'est une caractéristique qui est présente, en général, très souvent depuis l'enfance.
Alors Sébastien Boller, que sait-on du cerveau des hypersensibles ? Existe-t-il une particularité ? L'anatomie cérébrale des hypersensibles est-elle différente des autres ? Expliquez-nous un petit peu.
Alors ça, c'est une question qu'on a voulu poser aussi pour ancrer ce thème de l'hypersensibilité dans une science naturelle, dans la biologie, pour voir s'il y avait un socle, parce que quand même, quand on aborde cette question, il y a des gens qui vous disent, bah non, c'est une vue de l'esprit, les gens qui se disent hypersensibles, pour excuser des troubles de comportement divers, une forte émotivité. Et puis d'autres qui disent, mais non, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Voilà. Donc, comment est-ce que la science peut trancher? Alors, d'une part, à travers la psychométrie, donc ce que nous explique Nathalie, avec la façon de faire passer des questionnaires à des gens pour faire ressortir des facteurs objectifs, voilà, de la personnalité. Et puis d'autre part, aller regarder ce qui se passe dans le cerveau, si oui ou non il y a une différence. Alors il y a deux façons de faire pour aller vers la biologie. C'est d'une part la génétique quand même. Est-ce que c'est héritable génétiquement? Et là déjà, bah il y a des choses qui ressortent, puisqu'il y a une part d'héritabilité qui est loin d'être négligeable. 47%. De la sensibilité, du degré de sensibilité des individus s'expliquerait par la génétique. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Ça suggère qu'il y a une base biologique derrière, que c'est pas du vent, c'est pas une vue de l'esprit, la sensibilité des individus. Et quand on regarde dans le cerveau, alors il y a quelques expériences, il n'y en a pas énormément aujourd'hui, mais il y a des publications qui montrent que il y a quelques zones cérébrales qui sont impliquées, qui sont plus réactives chez les personnes à haute sensibilité, dans la réaction aux émotions qu'on voit sur le visage d'un proche, par exemple. On va voir que c'est des zones associées à la perception viscérale des émotions, ou à la planification des actions aussi, ou à la douleur également.
Nathalie Clobert.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a, alors ces recherches sont, c'est un domaine qui est récent, hein, la sensibilité élevée, faut le rappeler. C'est-à-dire que à la base, ça nous vient un petit peu de l'éthologie, hein, l'idée que dans plein d'autres espèces animales, on peut avoir une sensibilité plus ou moins élevée aux variations de l'environnement. Et dans ce cadre, dans les années 90, on va voir les premières théories en psychologie.
Alors, on voit beaucoup à l'américaine Hélène Aron.
Oui, tout à fait. C'est une des précurseurs. C'est une des théories de la sensibilité élevée. C'est important de le dire parce qu'il y a plusieurs autres. Il y a d'autres théories. Celle-là est assez visible. C'est celle du SPS, Sensory Processing Sensitivity.
En français, ça veut dire
ça veut dire sensibilité dans le traitement sensoriel, effectivement. Ça, ce sont ces recherches qui sont pionnières. Et on se rend compte que de plus en plus, là, ça explose dans les dernières années. On a de plus en plus de papiers, y compris des papiers de synthèse dans des grandes revues scientifiques sur la sensibilité élevée, qui commencent à nous apporter des réponses, mais il y a encore plein de choses à faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Cerveau Psycho aussi, via l'étude qu'on a publiée.
Question de Marie-Laure Zenshine, de Femme Actuelle.
Oui, vous parliez d'une forme finalement de perméabilité très exacerbée à l'environnement, aux environnements, mais est-ce qu'on peut dire que certains traits de caractère relèvent, alors ou pas, de cette haute sensibilité? Je pense par exemple à la susceptibilité, à un manque d'autodérision aussi, c'est-à-dire est-ce que tout est grave, tout est sérieux, il faut tout prendre en considération et ne pas finalement laisser filer les choses?
Alors, c'est très intéressant. Effectivement, on les décrit souvent comme plus susceptibles. Pourquoi? Parce que ils vont le prendre de plein fouet. Alors, il y a une réactivité immédiate qui dépasse le contrôle qu'on peut avoir. Et puis, dans un second temps, il y a la réaction. C'est-à-dire, une fois que je suis plus touchée, bah, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me dis, bon, c'est pas si grave, je vais laisser passer, ou est-ce que je vais exploser? Et ça, pour le coup, ça va dépendre de la personnalité de chacun, de l'expérience, des stratégies de gestion.
Qu'est-ce que vous conseillez, justement?
Alors, ce que je conseille, c'est d'analyser d'abord la situation, effectivement, et d'essayer de le replacer en contexte. Mais je pense que beaucoup de personnes sensibles qui travaillent sur leur sensibilité le font régulièrement. C'est-à-dire, apprennent à mettre de la distance en ce qu'ils perçoivent immédiatement et la manière comportementale.
Oui, c'est ce qu'on fait pas mal en travail cognitif, c'est-à-dire on a une pensée qui est associée à son émotion immédiatement, et après on peut avoir le choix de son système de pensée, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs pensées qui vont coexister à l'occasion d'une même situation. Et ça, c'est ce qu'on travaille en thérapie cognitive, notamment.
Dans quelques instants, nous continuons à explorer l'hypersensibilité et les moyens de la vivre au mieux au quotidien. Nous évaluerons votre sensibilité. Hein. Préparez un stylo et un bout de papier pour un test. En attendant, à 10h20, on écoute Barbara du bout des lèvres.
Dites-le. Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Je rêve. Oh, dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve. Mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles. En été, un jour au soleil. Au soleil. Regardez dans le soir qui penche, la pince au poilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, agacé du bout du cœur, vos cris me dérangent, je rêve, je rêve. Venez donc me parler d'amour, à voix basse dans ce contre-jour, et faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, la pince, voilier qui balance, quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
Barbara, du bout des lèvres.
Bonjour, Anthony, émotif anonyme.
Grand bien vous fasse.
Arrête, si tu pleures, je pleure.
Ali Rebéi.
Vous disiez du mal de moi.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment mieux vivre son hypersensibilité avec la complicité du mensuel Cerveau et Psycho. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
Du rire aux larmes, en passant par l'émerveillement, 15 à 20% de la population mondiale serait hypersensible. Une personne sur 5 serait donc concernée par ce phénomène, pourtant méconnu. Mais qu'est-ce que l'hypersensibilité et comment se manifeste-t-elle ? Chez les hypersensibles, les 5 sens sont plus développés que la moyenne. La beauté d'un tableau, les changements de saison ou encore une rencontre peuvent susciter de vives émotions. Mais contrairement aux idées reçues, l'hypersensibilité ne peut pas être définie avec des critères systématiques. Elle varie selon les personnes et les vécus. Il existe des degrés d'hypersensibilité. Par exemple, 30% des hypersensibles seraient extravertis et 70% d'entre eux plutôt timides ou introvertis.
Extrait d'un reportage diffusé sur France O. Alors Nathalie Claubert, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Est-il vrai que la population générale compte environ 20 à 30% d'hypersensibles ? Ce chiffre me paraît assez énorme.
Alors oui, effectivement. Alors encore une fois, là, le mot hypersensible ne nous aide pas beaucoup, hein, puisqu'il évoque une notion d'excès. La plupart des études qui ont été faites sur ce sujet, le chiffre souvent qui revient, c'est le chiffre de 20%. Alors, il faut retenir que c'est continu, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins sensible, mais ça dépend où on place la barre ou le seuil. On peut choisir que ce soit un phénomène rare, comme par exemple pour le haut potentiel intellectuel, où c'est 2,3%. Là, ici, il s'agit d'un phénomène qui n'est pas un phénomène rare, bien sûr, même si c'est une différence.
Nathalie Claubert, plus on parle d'hypersensibilité, plus on peut avoir l'impression qu'on est soi-même hypersensible. On peut se reconnaître dans des descriptions assez générales qui font écho en nous. C'est le fameux effet Barnum, hein, que l'on retrouve notamment quand on lit son horoscope.
Oui, tout à fait. La sensibilité, en même temps, ça concerne tout le monde. La question après, c'est comment on va se comparer par rapport aux autres, comment on va se placer sur cette fameuse courbe de la sensibilité.
Sébastien Boller, vous avez interviewé l'historien Georges Vigarello à propos de cette hypersensibilité de plus en plus présente dans nos sociétés.
Ah oui, parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'un seul coup, on se met à parler d'hypersensibilité? Dans les années 40 ou en 1850, qui aurait eu l'idée de dire « je suis hypersensible » ? Est-ce que l'humanité devient hypersensible et pourquoi ? Et moi, je trouve ça intéressant, l'approche historique. Alors, ce que développe Georges Vigarello, c'est une description de la montée, en fait, de l'introspection, de l'intérêt que les gens ont pour leur propre monde intérieur, et que cette évolution a une dimension historique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un moment dans l'histoire, notamment de l'histoire de l'Occident,
où il y a cet intérêt pour le monde intérieur, pour la sensibilité, pour l'autonomie de l'individu, pour la liberté, où on s'interroge sur les mouvements de l'âme. Et ça correspond, d'après lui, à l'époque des Lumières, hein, fin du XVIIIe siècle, la Révolution française, la montée de l'individu, où on commence à s'autoriser, à se dire « Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça ? Puisque j'ai le droit de choisir ma liberté, puisque j'existe en tant qu'individu, je sonde mes ressentis. » Et puis après, ça va suivre tout un décours, en passant par la découverte, l'intérêt scientifique, notamment de scientifiques comme Bonis, qui était un psychophysiologiste au 19e siècle, qui va étudier l'interoception, qui se dit « Mais finalement, si je suis capable de marcher, d'être debout, de marcher dans une pièce, c'est parce que j'ai un retour de mes pieds à travers une sensibilité des nerfs qui remontent au cerveau, qui permettent d'équilibrer ma posture. » Et donc, on se rend compte que tout passe par des sens intérieurs aussi, pas seulement sur le plan des émotions, mais physiquement. Et puis ensuite, toute l'approche de l'éducation physique, on va voir apparaître des termes comme la capacité à jauger un poids avant de le lancer, sentir le retour de la main sur les articulations du coude. Et puis, peu à peu, on va arriver jusqu'au 19e siècle, début du 20e siècle, avec la question de la psychologie, avec Freud, avec l'interrogation sur pourquoi est-ce que je me suis mal dans ma vie, est-ce qu'il y a eu un trauma, est-ce que mon enfance, mon éducation a eu un impact sur ce que je suis aujourd'hui. Et puis là, on est en plein vraiment dans les ressorts intérieurs de l'âme. Et ce que pointe Vigarello aujourd'hui, c'est une explosion de la thématique de la sensibilité dans le contexte de l'individu consommateur, l'individu roi, qui est confronté à une autonomie même montée en épingle, hein, par les intérêts commerciaux, qui ont intérêt à démocratiser la consommation de biens de consommation courante pour chacun. C'est un moteur de la consommation. Donc chacun est sommé d'exister en tant qu'individu et est confronté à un choix de plus en plus grand. Et face à ce choix de consommation apparaît la frustration. Parce qu'on nous promet, on a droit à tout sur le papier, mais en fait, il y a des inégalités, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, on a des libertés individuelles qui, sur le papier, sont infinies, mais qui, en fait, se heurtent à celles des autres, et peu à peu, nous indique-t-il, on supporte de moins en moins, en fait, les restrictions de notre liberté individuelle, et ça donne lieu à des explosions, comme ça, de frustration, qu'on attribue parfois à une hypersensibilité, alors qu'en fait, notre sensibilité a du mal aussi à supporter des contraintes et des limites.
Nathalie Clobert.
Alors oui, c'est intéressant. C'est pas tout à fait effectivement la façon dont on traite de la sensibilité élevée en psychologie. Hein, c'est un peu différent. Par contre, ça rejoint quelque chose sur lequel je souhaiterais rebondir, qui est cette confusion souvent faite entre intolérance à la frustration chez l'enfant et sensibilité élevée. Il faut rappeler effectivement qu'un enfant qui est intolérant à la frustration n'est pas forcément un enfant très sensible. Ce sont pas forcément des enfants difficiles. Là, ce sont deux choses bien distinctes, effectivement.
Alors, ouais. Comment mesure-t-on l'hypersensibilité, Nathalie Clobert? C'est la psychologue américaine que l'on a déjà cité, Hélène Aron, qui a établi un questionnaire de 27 questions, c'est ça?
Oui, il existe, la base. Tout à fait. Le premier, en tout cas, qui a été créé, c'est celui d'Hélène Aron, le HSPS, Height Sensitive Person Scale, en anglais, qui est en 27 questions et qui évalue la sensibilité élevée, qui a été très bien validée sur plus de 15 000 personnes au total, et on a maintenant une validation française aussi. C'est tout récent.
C'est une équipe de l'Université de Tours, hein, qui a validé ce questionnaire auprès de 814 personnes.
Oui, tout à fait. Effectivement.
Alors, je vous propose d'évaluer votre sensibilité. Prenez un crayon et un papier. Il s'agit d'un test qui est une version abrégée, hein, en 10 questions, n'ayant pas fait l'objet d'une validation spécifique. Alors attention, si vous souffrez actuellement d'un trouble psychique diagnostiqué, ce test ne peut pas refléter fidèlement votre personnalité.
Alors, je voudrais juste souligner que effectivement, ce test-là n'est pas inspiré de celui d'Hélène Aron, mais de celui que moi j'ai proposé et qu'on va soumettre à la validation. Dans pas très longtemps.
Alors vous pouvez répondre non, c'est 0 point, plutôt non, 1 point, plutôt oui, 2 points, et plutôt non, 3 points. Alors on va commencer ce test. Vous êtes facilement dérangé par les lumières, les bruits, les odeurs, certaines sensations tactiles. Non, plutôt oui, oui. Vous remarquez les changements subtils dans votre environnement? Non, plutôt oui, oui. Vous êtes sensible aux ambiances, vos réactions émotionnelles sont intenses, qu'elles soient positives ou négatives, non, plutôt oui, oui. Vous êtes facilement touché ou ému, vos proches vous décrivent comme quelqu'un de sensible, vous nouez des relations profondes avec les autres qui vous nourrissent réciproquement, non, plutôt oui, oui. Vous êtes attentif, attentive à vos émotions et à celles des autres. 9. Vous éprouvez régulièrement le besoin de vous isoler pour vous remettre des nombreuses sollicitations de votre environnement. Enfin, 10e question. Vous appréciez les œuvres d'art, peinture, musique, littérature et les émotions esthétiques. Non, plutôt oui, oui. Alors je rappelle, non c'est 0, plutôt non 1 point, plutôt oui 2 points, oui 3 points. Nathalie Clobert.
Alors tout de suite on va savoir si vous êtes hypersensible. Donc si votre résultat est compris entre 0 et 14, vous êtes peu sensible aux stimulations de votre environnement. Alors c'est plus confortable dans beaucoup de situations, mais ça peut faire en sorte que vous passiez à côté parfois d'informations qui pourraient vous être fort utiles dans des situations de votre vie quotidienne. Alors si vous avez entre 15 et 23, vous êtes plutôt réceptif à votre environnement sensoriel et émotionnel. Vous n'êtes pas pour autant débordé par les stimulations qui vous entourent. Et même lorsque vous n'êtes pas expert de ce qui se passe au niveau sensoriel ou émotionnel, vous êtes cependant suffisamment sensible, la plupart du temps, pour vous adapter aux différentes situations que vous rencontrez. Alors la bonne nouvelle, c'est que le monde dans lequel on vit est fait en grande partie pour vous. Voilà. Et maintenant, attention, si votre score est supérieur à 24, vous avez des signes qui sont souvent présents chez les personnes avec une sensibilité élevée, autrement dit hypersensible. Vous avez des traits qui sont souvent présents, comme la réactivité aux stimulations de votre environnement, qu'elles soient sensorielles ou émotionnelles, avec un côté assez inconfortable. Vous vous heurtez à un monde qui n'est pas conçu pour votre degré de sensibilité, souvent, et en même temps un aspect positif qui peut vous rendre très habile dans les situations relationnelles, émotionnelles, sociales, et peut-être aussi un petit peu de créativité à exploiter.
Et vous pouvez refaire ce test à tête reposée en lisant le dernier numéro de Cerveau et Psycho. Sébastien Boller.
En allant passer le test intégral aussi sur le site, parce que là on reçoit son bilan personnalisé et ces données vont ensuite nourrir une étude scientifique qui réunit des big data pour vraiment aboutir à une recherche scientifique toujours plus poussée sur l'hypersensibilité. Il y a quelque chose moi qui me revient à l'esprit qui est dans l'article Nathalie que vous abordez, c'est les courbes d'hypersensibilité entre les hommes et les femmes.
Alors oui.
C'est d'ailleurs une question de Marie-Laure Zonshine.
Oui absolument. Oui. On pense probablement, alors à tort ou à raison, que la sensibilité féminine est forcément bien plus élevée que la masculine, qui est cachée, qui est feinte, parce que c'est pas bien pour un homme d'exprimer ses émotions ou de montrer sa sensibilité. Est-ce que, preuve à l'appui, étude à l'appui, on le constate ou pas?
Ce sont des choses qu'effectivement on peut retrouver dans les études. C'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage, en moyenne, des tendances à répondre chez les hommes et chez les femmes. Et les hommes ont tendance à minimiser sur les questionnaires leur sensibilité. Ceci dit, vous allez trouver des différences entre les hommes et les femmes sur d'autres traits de la personnalité, comme le névrosisme, par exemple.
C'est quoi le névrosisme?
C'est la tendance à être réactif aux stimuli qui soient source de danger et aux émotions négatives.
Docteur Schneider.
Oui, rappelons quand même qu'on a beaucoup plus de femmes que d'hommes à nos consultations. C'est vraiment une proportion très différente.
Et nous accueillons Emmanuel. Bienvenue Emmanuel.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Merci de prendre mon appel.
Quel est votre témoignage Emmanuel?
Alors je vous appelle parce que j'ai un enfant, un garçon de 9 ans maintenant. Mm-hmm. Donc a été diagnostiqué hypersensible depuis ses 5 ans environ. Il a aussi été diagnostiqué à haut potentiel. Mmh. Donc ça s'est traduit par de grandes facultés intellectuelles, de l'intérêt pour beaucoup de choses malgré son jeune âge. Et concernant son hypersensibilité, depuis quelques temps, j'ai l'impression, quoique c'est pas forcément qu'une impression, mais qu'il développe des troubles obsessionnels. Mmh. Ça va être par exemple au moment du coucher avoir envie d'être besoin d'être rassuré de ça va être bonne nuit papa à demain faites beaux rêves je t'aime fort et il va le répéter ça continuellement. Mm-hmm. Il faut que je lui réponde moi aussi bien sûr ce que je lui réponds c'est un enfant aussi qui va effectuer beaucoup de levées dans la soirée. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'il va se recoucher, ça va être la même chose. Il va avoir besoin de répéter continuellement les mêmes phrases. Et il faut à chaque fois que moi je lui dise moi aussi pour le rassurer. Et j'aimerais savoir si je voudrais que je continue d'aller dans son sens et si ça le rassure, tant mieux. Ou est-ce qu'il faut essayer de d'une façon ou d'une autre de lui faire comprendre que de toute façon papa quoi qu'il arrive il l'aime, il est là pour lui et qu'il n'est pas obligé de continuellement répéter les mêmes choses et de développer ce type de trouble, quoi.
Alors, vous avez parlé, Emmanuel, de diagnostic. Hein. Rappelons que ni le haut potentiel, ni l'hypersensibilité ne sont des troubles. Hein. Nathalie Clobert.
Oui, tout à fait, effectivement. Et bon, même si c'est une double différence, hein, on peut être à haut potentiel et hypersensible, les deux ne vont pas forcément ensemble. Il n'y a pas de lien, en tout cas pour l'instant dans la recherche scientifique, on n'a pas de lien évident entre les deux. Alors j'ai envie de rebondir un petit peu, je pense que là c'est important peut-être de se faire aider dans la situation que vient de décrire ce papa et qui peut être effectivement déstabilisante pour mieux s'adapter au profil très particulier de l'enfant qui est toujours unique.
Oui, docteur oui. Schneider.
Ça semble important d'avoir au moins un œil extérieur, une consultation dans laquelle on pourra expliquer ce qui se passe, que l'enfant puisse aussi expliquer quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, parce que on voit bien un papa qui cherche à tout prix à aider son enfant, ce qui est absolument génial parce que l'enfant est protégé, mais il y a peut-être des peurs qu'il n'a pas osé dire.
Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir appelé et nous accueillons Cécile. Bienvenue Cécile.
Oui, bonjour Ali, bonjour à toute l'équipe. Merci de prendre mon témoignage. C'est pas plus un témoignage qu'une question. Mm-hmm. En fait, j'ai toujours été vraiment consciente de ma grande sensibilité. Mm-hmm. Depuis enfant, j'ai des images enfant où j'étais tellement heureuse de ressentir la beauté de la nature. J'ai beaucoup dansé. J'exprimais ma sensibilité à travers la danse. Et j'étais prête à payer le prix pour cette sensibilité, des émotions négatives qui étaient plus fortes, parce que je trouvais que c'était une chance d'être sensible. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, qui est aussi un grand sensible. Nous avons deux enfants aujourd'hui qui ont 18 et 20 ans, qui sont des grands sensibles. Nous sommes tous conscients de notre sensibilité et très heureux de cette sensibilité. Ma fille travaille fait une école en art appliqué et elle utilise sa sensibilité à bon escient. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. J'ai fait des études dans l'informatique et je travaille dans l'informatique. Aujourd'hui, je suis responsable des relations clients dans une start-up. Et en fait, ma souffrance par rapport à ma sensibilité, c'est dans mon travail. J'ai fait un burn-out parce que je suis à nouveau en arrêt parce que je dois en permanence me suradapter dans mon travail. Et pour essayer de maîtriser mes émotions, d'utiliser tout le côté très positif de ma sensibilité en termes d'empathie avec mes clients, en termes de perfectionnisme, mais ça m'épuise. Et voilà, là je suis à nouveau dans un petit creux, moins bas que lors de mon burn-out, mais ça reste un petit creux. Et je tenais à témoigner pour ça, parce que même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour positiver cette image de la sensibilité exacerbée ces dernières années. J'ai 50 ans et j'ai vraiment vu une évolution au fur et à mesure. Le milieu du travail reste très très compliqué pour nous, je trouve.
Marie-Laure Zonshine, vous aviez une question dans le sens du très beau témoignage de Cécile.
Oui, absolument. Et je trouve que, peut-être pas pour la rassurer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un point très important, j'ai trouvé très intéressant dans tout ce dossier de cerveau et psycho. C'est quand même, dans le milieu professionnel, le fait d'avoir une sensibilité élevée permet de sentir les choses avant les autres. Vous parlez de vigie, presque de lanceur d'alerte. Ils traitent mieux les informations qui proviennent de l'environnement. Ils peuvent avoir précisément cette plus grande sensibilité à des dangers, des risques que les autres ne voient pas. Donc effectivement, être hypersensible au travail peut aussi comporter des avantages pour soi, bien entendu, et pour la marche de l'entreprise.
Nathalie Clobert.
Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi de voir un petit peu les avantages. Donc, à quel point ça peut nous servir des fois. Parfois, ça peut nous sauver la vie, hein, de repérer certains éléments, notamment dans le domaine relationnel, des informations subtiles qui vont nous permettre d'adapter notre comportement. Mais c'est aussi, dans beaucoup d'entreprises très hiérarchisées, avec des managements parfois violents, une source de fragilisation, puisque les personnes sensibles vont être encore plus, on va dire, vulnérables que d'autres à ce type d'environnement toxique.
Comment aider Cécile ?
Alors, Cécile a raison de se protéger. Si effectivement elle se sent en danger, elle a raison de se mettre en arrêt. Il y a des fois des environnements où j'ai envie de dire que la meilleure solution, c'est parfois de ne pas y aller. quand on peut ne pas le faire, quand on peut s'y soustraire. On a vu d'ailleurs dans le dossier cerveau et psycho que des fois l'hypersensibilité, ça pouvait être aussi un trait qui favorisait la création d'entreprises, que finalement on n'est jamais mieux servi que par soi-même parfois, de bien connaître ses besoins et ses limites, et de savoir finalement dire stop quand un environnement devient trop envahissant, trop toxique.
Docteur Schneider.
Oui, c'est fatigant l'hypersensibilité, c'est parce qu'on est en hypervigilance permanente pour essayer de s'adapter.
Merci beaucoup, hein, Cécile, pour votre témoignage. 10h40, il est l'heure de retrouver les choses vues d'Aurélia Schneider.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Hein. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Aurélia Schneider.
Chère Ali, je vais vous faire une confidence. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un handicap, de pleurer devant tout film qui ne soit pas une comédie, de s'attacher si fort aux gens et aux choses, de ruminer pendant des années certaines photos ou articles de journaux, que ma gorge se serre si j'entends un orgue de barbarie dans la rue, et tout le reste. De m'être toujours sentie à côté de la plaque, décalée, de ne jamais bien comprendre, lorsque je me trouvais seule, enfant, à rêver, assise par terre dans la cour de récré, pendant que les autres filles jouaient à la marelle, pendant que je voulais en permanence tout expliquer, lorsque dès le collège, pourtant nul en maths, j'avais obstinément décidé de faire médecine dans une famille où personne n'exerçait ce métier, lorsque étudiante, je me sentais toujours, je cite, un ovni dans les soirées sur le plan vestimentaire et aussi dans les conversations que je trouvais trop bruyantes, superficielles, pas assez vraies. Il faut dire aussi que dans les dîners, le métier de psy n'a rien arrangé. Soit les gens s'enfuyaient de peur que je les analyse, soit ils me demandaient justement de les analyser, de résoudre une névrose ancienne et handicapante là tout de suite. Quel inconfort! Pourtant, le choix de cette profession a été salutaire. Cela m'a tout permis d'être bizarre. On s'attend plus ou moins à ce que vous soyez bizarre quand vous êtes psychiatre. Permis de balayer devant ma porte en apprenant puis en expérimentant les différentes techniques thérapeutiques. Permis de faire ce que j'aime. Un psy passe sa vie à écouter des gens qui ont besoin d'aide et d'empathie. Cela m'a permis de comprendre que je faisais partie de la bande des hypersensibles. Une patiente m'a mis sur la voie, il y a une dizaine d'années, en me parlant d'un bouquin qui l'avait énormément soulagée, dans lequel elle s'était reconnue, livre que je me suis empressée de dévorer. Quelle libération de mettre un mot sur tout cela. Par chance et intuition, j'en ai fait mon métier de cette hyperpathie, comme je l'appelle. Cette aptitude permet un accès direct à l'émotion de l'autre, une facilité d'écoute, la compréhension souvent rapide des situations, l'évidence d'une confiance réciproque. Bref, tout ça, je le dois à cette qualité singulière. Alors, si la clé était tout simplement de savoir, savoir que nous ne sommes pas seuls, nous avons de nombreux frères et sœurs, tous différents, chacun possède son ou ses propres canaux de sensibilité exacerbée. Savoir accepter ces vagues émotionnelles qui nous dépassent, savoir qu'elles sont variables, imprégnées des événements qui traversent notre vie, apprendre à les réguler un peu, avoir de l'indulgence pour nous-mêmes. Si les hypersensibles font parfois l'effet d'être fragiles, ils étonnent souvent par leur résilience. Savoir que ce n'est pas un monstre tapis en nous, en faire une opportunité dans le choix d'un métier ou d'une activité, ou de toute autre voie qui permettrait de vivre heureux et en harmonie avec ce don précieux.
Les belles choses vues d'Aurélia Schneider à podcaster sur l'appli France Inter. Nathalie Clobert, Aurélia Schneider parlait d'empathie. L'empathie, c'est fondamental pour bien comprendre l'hypersensibilité.
Oui, c'est très important. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour ces confidences qui m'ont beaucoup touchée et dans lesquelles je me retrouve, j'avoue, aussi en grande partie, ce qui m'a conduit au métier que j'exerce actuellement de psy, aussi psychologue. Donc oui, effectivement, l'empathie, c'est assez fondamental quand on repère aussi bien les émotions des autres, quand on a accès comme ça de façon assez directe à ce qui se passe chez l'autre, on va pouvoir, alors certains s'en protègent, hein. Il y en a pour qui, effectivement, c'est très déstabilisant. Et d'autres vont développer, effectivement, cette capacité à ressentir ce qui se passe en l'autre pour mieux agir, pour mieux s'adapter, pour mieux aider aussi pour certains.
Tiens, Pascal nous écrit, vous parlez d'un test disponible sur un site et qui va alimenter une étude. Mais de quel site s'agit-il, Sébastien Boller?
Il s'agit du site de la revue Cerveau et Psycho, cerveauetpsycho.com. Voilà, vous pourrez passer le test en ligne et avoir votre résultat.
Dans un instant, des pistes pour mieux vivre son hypersensibilité. Ce sera juste après Alex Cameron qui interprète Sarah Jo.
I never hurt nobody, not in any way. physical way. And when I do, they will have wanted it that way. But I know that there's just one thing you never do. As fuck with my family. Just won't make sense. You never know on which side you fall when you're sitting on the fence. But my God, if you are listening, give me a sign and let me know what to believe in. Something. Who pulled the curtains? Who broke the screen? Who told my brother that his kids are gonna die from this vaccine? Who told my mother that she's never gonna find no love in nobody? Who told my father that it doesn't have to be for counseling? Who pulled the curtains? Who broke the screen? Who told my sister that she's never gonna be no beauty queen? Who told my mother that she's never gonna find no love in nobody? Who told my father that it doesn't have to be for counseling? Who pulled the curtains? Who broke the screen? Who told my brother that his kids are gonna die from this vaccine? Who told my mother that she's never gonna find no love in nobody? Who told my father that it doesn't have to be for counseling?
Alex Cameron interprété Sarah Jo.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
Et ce matin, comment mieux vivre son hypersensibilité avec la complicité du mensuel Cerveau et Psycho. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Écoutons le comédien Maurice Barthélémy qui évoque son hypersensibilité dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 en février 2021.
Alors mon hypersensibilité, déjà c'est une hypersensibilité des sens, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tous mes sens sont un peu au taquet, c'est-à-dire que voilà le l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, déjà ça.
D'accord.
Et puis il y a aussi une forte intuition. Ouais. Il y a aussi une pensée en arborescence, une idée amène une autre idée qui amène une autre idée. Donc j'ai souvent l'esprit un peu confus. Et le bon côté, c'est que en fait j'ai un bon esprit d'analyse. Et puis la dernière chose,
une empathie,
une surempathie, ouais. C'est-à-dire que j'ai tendance à être un peu l'infirmier de la famille, ouais.
Mais alors du coup, est-ce que c'est un petit truc en plus ou est-ce que c'est une souffrance avec laquelle composer ?
Non, je crois que c'est un truc en plus. C'est un cadeau à partir du moment où on le maîtrise.
Le comédien Maurice Barthélémy sur France 2 en février 2021. Alors Nathalie Claubert, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Quels sont les grands avantages de l'hypersensibilité ? Vous comparez d'ailleurs les hypersensibles aux orchidées. Pourquoi ?
Alors oui, alors ça c'est une métaphore qui est souvent utilisée, hein, ouais. Qui est pas forcément de moi, mais qui revient effectivement sur les orchidées. J'aime bien parce que l'idée c'est que l'orchidée c'est une plante qui est assez sensible, hein, qui a besoin d'un certain niveau de luminosité, d'hygrométrie, qui est assez exigeante. Mais en même temps, quand ces conditions sont remplies, elle donne une floraison magnifique, époustouflante. Et je pense que ça c'est à l'image aussi des personnes sensibles, l'idée que dans des environnements toxiques, ça va nous rendre plus vulnérables, ça va être difficile de s'épanouir. Mais par contre, quand on trouve des secteurs favorables, quand on trouve la voie, par exemple, dans ces cas-là, on peut vraiment développer un accomplissement de soi qui peut être très supérieur à la moyenne.
Alors, quels sont les grands avantages de cette hypersensibilité ?
Alors, les avantages, déjà, effectivement, c'est la conscience des subtilités, bien sûr. C'est une certaine forme de lucidité aussi, qui est souvent dérangeante. Voir ce que les autres ne voient pas, c'est pas toujours confortable, effectivement, toujours. cette lucidité-là. C'est aussi un lien établi dans les études avec une plus grande créativité. Bien sûr, c'est une finesse relationnelle, c'est aussi un certain rapport parfois à l'autre, cette connexion qu'on peut décrire, hein, que décrivent les amis de cœur à cœur ou d'âme à âme, où il y a une forme d'authenticité qui va augmenter effectivement la nature du lien, le fait de se nourrir de ces relations-là. Ça, c'est tous des secteurs dans lesquels on peut investir, comme la sensibilité esthétique aussi, mais aussi l'intérêt pour le monde relationnel et pour son propre univers intérieur.
Alors, comment faire de l'hypersensibilité une force, comment mieux la vivre au quotidien? Peut-être d'abord accepter tout simplement cette hypersensibilité.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire en faire une part aimable de soi-même. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, dans notre histoire. Je pense que beaucoup d'hypersensibles ont entendu des jugements négatifs envers eux-mêmes. Ils ont dû se construire malgré ça, malgré ce regard-là. Donc accepter la sensibilité comme une part de soi et comme une part aimable de soi. Travailler sur ses représentations. Mieux connaître ses besoins et ses limites. Beaucoup de personnes très sensibles, par volonté de faire comme tout le monde, vont s'imposer des choses qui ne sont pas en accord avec leur degré de sensibilité.
Exemple.
On n'est pas obligé de regarder la télévision tout le temps, là, à l'heure actuelle. On peut la couper aussi. Ça ne veut pas dire qu'on va se tenir loin de l'information, mais on peut se protéger des images, des discours, de l'anxiété générale qu'il y a dans, effectivement, les paroles, hein, des personnes qui sont interviewées. On n'est pas obligé non plus de s'imposer des éléments qui vont aller à l'encontre de notre sensibilité. Aller voir un film d'horreur au cinéma, par exemple, ou forcément écouter quelque chose, aller dans une boîte de nuit, je ne sais pas, avec un son qui va trop fort.
Et vous conseillez donc d'appliquer le fameux connais-toi toi-même, hein, l'un des préceptes sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Ça, c'est très important quand on est hypersensible.
Oui, s'accepter, se connaître soi-même et surtout faire preuve de bienveillance envers soi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout éviter. Je ne prône pas un évitement généralisé. Il y a des choses qu'il faut pouvoir affronter, bien sûr. Mais pouvoir quand même garder ses forces pour les batailles qui en valent la peine.
Sébastien Boller.
Oui, et puis Nathalie, vous dites quelque chose de très important dans un autre article que vous signez avec Sophie Brasseur dans le dossier de Cerveau et Psycho. C'est que ce soit les informations sensorielles ou les émotions, ce sont des messages que nous adressent nos sens ou notre affect et qui peuvent être exploités pour en retirer un certain nombre d'avantages. La question, c'est des compétences qu'on peut mettre en œuvre pour faire de ces messages émotionnels non pas quelque chose qui nous déborde et qui nous met dans l'anxiété, dans la panique, mais un outil de liberté et d'action supplémentaire. Et les compétences émotionnelles, celles qui sont reliées à ce qu'on a appelé longtemps l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à détecter une émotion, à l'identifier, mettre un nom dessus, en identifier l'origine, la cause, savoir l'exprimer, savoir comment l'utiliser. Et ça qui est très intéressant, en fait. C'est vraiment une sorte de d'arme fatale, quelque part, l'émotion, quand on sait mettre en place ces compétences pour l'utiliser au mieux. Et j'aime beaucoup aussi ce que vous dites sur la lucidité. On a très bien vu, par exemple, il y a quelques années, les premiers lanceurs d'alerte sur la crise climatique. Je serais bien curieux de savoir s'il n'y a pas des hypersensibles là-dedans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont un peu comme les... Vous savez ce que mettaient les mineurs dans les mines de charbon, un canari dans une cage, parce que le canari, c'est un animal qui ressent la montée de la concentration de monoxyde de carbone, qui est un poison qui peut donner des coups de grisou, bien avant l'homme. Donc c'est un hypersensible, le canari, qui détecte un danger bien avant le troupeau, en quelque sorte. Et je pense que là, l'humanité a une chance avec les hypersensibles. Et si on leur donnait plus de pouvoir, certainement qu'on éviterait à la fois des catastrophes climatiques et peut-être aussi qu'on aurait vu venir des espèces de dictateurs qui sont en train de frapper à nos portes.
Et je retiens que les hypersensibles sont donc des orchidées et des canaries. Nathalie Clover.
Oui, alors moi j'aime bien l'idée de sentinelle. C'est l'idée que finalement les hypersensibles vont réagir, oui, avant les autres. Donc les petites injustices, les petites choses qui commencent d'abord, on va dire de façon tapis, les petits éléments, ils vont les repérer avant les autres et ils vont alerter avant les autres. Alors des fois on va se dire que ils font des montagnes de rien du tout, mais souvent ils voient plutôt juste, effectivement.
Docteur Schneider.
Oui, plusieurs trucs pour placer son énergie et sa sensibilité au bon endroit. Je préconise, moi, de lire les informations sur des choses et supports neutres, c'est-à-dire des cartes de géographie, des textes, sans images. Et ça fait beaucoup de bien, parce qu'on se sent informé, mais on n'a pas dans la rétine, là, qui s'imprime, des choses trop compliquées. Et puis, par rapport aussi au fait de l'émotion, moi j'ai remarqué qu'il y avait cette possibilité d'enregistrer l'émotion avant même les personnes concernées. C'est des canaries de l'émotion, les hypersensibles. C'est assez drôle là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une perception avant l'autre de ce qui va se passer. Alors c'est à utiliser avec précaution, mais bien, quoi. Oui.
Delphine nous écrit ceci, j'ai constaté que lors de crises sociétales importantes, type attentat, guerre en Ukraine, je me sens complètement débordé par mes émotions. Je me souviens, lors des attentats du Bataclan, d'être hypersensible, de pleurer beaucoup, de me disputer très fortement avec mes proches. Et c'est à nouveau le cas maintenant avec mon compagnon pour l'Ukraine. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à gérer cette période. Avez-vous des conseils, Nathalie Clobert?
Comme on le disait tout à l'heure, effectivement, d'essayer de choisir ses sources d'informations de façon à ce qu'elles soient les plus neutres possibles. Éviter les images, les éléments qui sont trop activants. Maintenant, je pense que c'est difficile, mais même pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles en ce moment, de rester, on va dire, impassible face à ce qui se passe, excusez-moi. Donc là, on appuie sur le bouton de l'empathie et effectivement, imaginez tout ce que les gens peuvent vivre, pas si loin de nous finalement, c'est quelque chose d'assez épouvantable et plus on est sensible, plus ça va prendre de l'ampleur. Donc oui, on peut s'informer, mais sur des choses qui nous protègent davantage et on peut en parler autour de nous, effectivement, de dire ce qu'on ressent peut-être avec d'autres personnes sensibles pour avoir le sentiment qu'on partage davantage, mais se concentrer aussi sur ce qui dépend de nous, parce qu'il y a certaines situations qui, malheureusement, nous, à notre échelle, dans notre quotidien, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, comme par exemple participer à des dons, de l'aide humanitaire, mais on ne peut pas contrôler le conflit, on ne peut pas prendre les décisions à la place des décideurs. Et ça, il faut pouvoir aussi trier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, et pouvoir se concentrer sur ce qui dépend de nous et aussi sur notre quotidien.
Tiens, écoutons Anne de Nantes qui nous a laissé une note vocale.
Bonjour Anne, 50 ans. Donc, je voulais juste témoigner, dire que voilà, j'ai découvert il y a 2 ans que j'étais hypersensible et pour moi, ça a été une révélation. Dans la mesure où tout ce qui me semblait anormal dans mon attitude ou mon comportement, surtout les besoins de m'isoler de temps en temps ou les choses que je ressentais très fortes, maintenant ça change tout parce que c'est quelque chose que j'accepte et ça m'a aidé à mieux me connaître, le fait de connaître ce thème de l'hypersensibilité comme un trait de caractère. Et ça, c'est hyper important de le préciser que c'est pas une maladie. Donc voilà.
Message positif d'Anne, hein?
Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est pas une maladie et ça apporte plein de petits bonheurs au quotidien et de choses positives.
Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Que faire quand on sent que son émotivité vous déborde? Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on sent qu'on est débordé émotionnellement? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la minute, dans l'heure?
Tout va dépendre de la situation finalement, parce qu'il y a des situations où c'est pas si embêtant que ça d'être débordé. En fait, si je suis dans un environnement avec des gens qui sont plutôt tolérants, si je suis ému ou que j'ai une crise de larmes, finalement je peux dire aux autres, là je suis ému, ne vous inquiétez pas.
Bien sûr.
Ça va, c'est juste que je suis très sensible. Et puis ça se passe bien, voilà.
Mais si on réagit mal, par exemple, à une taquinerie, à une critique, on est débordé, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là?
Alors, la deuxième chose qu'on peut faire, si vraiment c'est une situation où on peut pas se permettre de montrer ses émotions en public, c'est de se retirer dans un premier temps pour apaiser la vague émotive et utiliser des techniques de relaxation, de méditation par exemple, de pleine conscience, qui vont nous aider à laisser passer comme un nuage l'émotion.
Aurélie Schneider?
Oui, cohérence cardiaque, s'entraîner régulièrement.
Rappeler ce que c'est en quelques mots.
C'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, le tout sur une minute.
Ou plus.
Et donc, ou plus, 1, 2, 3, 4, 5 minutes par jour, tous les jours, s'entraîner à se calmer.
Oui, tout à fait, effectivement. Et les exercices réguliers vont permettre de baisser le niveau d'activation général.
Merci à tous. Merci Sébastien Boller. Je recommande la saine lecture du dernier numéro de Cerveau et Psycho consacré à l'hypersensibilité. Merci beaucoup Nathalie Clobert. On peut lire avec beaucoup de profit ma Bible de l'hypersensibilité publiée chez Le Duc et Marie-Laure Sunshine acquiesce.
Alors moi j'ai 19 au test, donc je sais pas, mais...
Demain, émission spéciale Solidarité avec le peuple ukrainien aux côtés de Christophe André. Racontez-nous les initiatives près de chez vous, dans votre ville, dans votre département. Et si vous souhaitez aider, n'hésitez pas à nous appeler demain au 01 45 24 7000. Nous vous attendons très nombreux dès maintenant sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas également à laisser des messages de soutien et de solidarité au peuple ukrainien en déposant une note vocale. Pour les Parisiens ou les Franciliens, sachez qu'à l'initiative de la revue La Règle du Jeu, un meeting de solidarité avec les résistants de Kiev se tiendra tout à l'heure de 17h à 20h au théâtre Antoine. Dans un instant, Nagui et sa bande originale.